La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour, celle d'Elisabeth Assayag.
Mettre de l'argent de côté, c'est bien, mais ça n'est pas toujours simple d'y arriver. Elisabeth, il y a une solution, elle s'appelle Cashbee.
Oui, Cashbee. Cashbee, c'est le nom de cette start-up. Elle fait référence à l'abeille patiente et travailleuse et ça tombe bien puisque cette appli vous permet de faire travailler votre argent patiemment, tranquillement et surtout, elle vous permet d'épargner très simplement. Elle met l'argent à votre service. C'est une forme de passerelle entre votre compte courant d'un côté et un compte rémunéré de l'autre. L'application vous permet de faire circuler l'argent entre les deux comptes quand vous le souhaitez. C'est important parce que selon l'INSEE, les ménages ont épargné 14,5% de leurs revenus bruts disponibles en 2018. Alors, il existe peut-être d'autres solutions pour épargner et utiliser notre argent. Bonjour Marc Templeman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des cofondateurs de Cashbee. Je crois que vous êtes trois, c'est ça ?
C'est ça.
Comment, justement, vous est venue cette idée de Cashbee, d'épargner notre argent différemment ?
Eh bien, tous les trois ont eu à peu près la même idée et on est parti d'un constat qui est paradoxal et étonnant, qui est que d'un côté, on a tous envie, voire besoin de mettre de côté pour acheter la voiture, la nouvelle cuisine, l'éducation des enfants, voire abonder un peu sa propre retraite. Et alors que de l'autre, énormément de gens, nous y compris, ont du mal à le faire de façon rationnelle et de façon confiante. Alors, donc on a voulu mettre en place une solution extrêmement simple pour justement y arriver.
Et c'est vrai que c'est très simple, quand on se connecte sur votre site, tout est très, très, très bien expliqué. Comment ça marche ? Donc, je fais comment ?
Alors, normalement, en moins de 6 minutes, vous connectez votre compte courant où qu'il soit, typiquement dans une grande banque française où l'épargne n'est pas ou peu, très très peu rémunérée. Il y en a pour 1000 milliards d'euros. Et vous le connectez à un compte dans une banque française, qui est une banque partenaire de Cashbee. Et à partir de ce moment-là, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous pouvez faire basculer votre argent d'un à l'autre, sachant qu'à chaque fois que vous mettez de côté, cet argent est rémunéré.
À combien ?
À 1% en moyenne la première année.
Alors, quand vous dites une banque partenaire, faut-il que je change nécessairement de banque ? Est-ce qu'il faut que je verse mon salaire, disons-le, dans la banque partenaire de Cashbee ?
Alors non, on préconise la simplicité. On sait très bien que c'est un des freins à l'épargne, c'est qu'il faut que les choses soient simples. Donc non, vous ne changez pas de banque. En revanche, vous ouvrez un nouveau compte en votre nom, en France, dans une banque qui est régulée. D'ailleurs, nous, Cashbee, on est régulé aussi.
Ça peut être une banque en ligne ?
Ça peut être une banque en ligne, mais dans le cas présent, il s'agit en fait d'une banque dite captive.
Traditionnelle.
Enfin, ce sont des banques qui ont besoin des dépôts. Les grandes banques n'en ont absolument pas besoin, elles en ont trop. Et ces petites banques avec lesquelles nous sommes en contact, et nous vous mettons en contact, sont justement des banques qui veulent avoir vos dépôts et qui, pour ce faire, les rémunèrent.
Mais c'est lesquelles, par exemple ? Quel genre de banque ?
Alors, on peut parler de MyMoneyBank, qui est notre partenaire. Il y en a d'autres, PSA, RCI. C'est typiquement des banques, encore une fois, spécialisées, qui n'ont pas de réseau et qui, pour attirer les dépôts dont elles ont absolument besoin, sont prêtes à les rémunérer.
C'est gratuit pour moi en tant qu'utilisatrice ?
Bien sûr.
Ouais. Et donc vous vous rémunérez comment ?
Alors nous, on se fait payer par ces mêmes banques qui veulent avoir les dépôts. Donc c'est un système plutôt sain. Pour vous, tout est gratuit. Votre argent travaille pour vous. Et nous, on se fait rémunérer par la banque qui veut vos dépôts.
Sandra Legrand.
Alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on aime bien que l'argent travaille et rapporte. En revanche, j'ai deux questions. La première, c'est la confiance dans ces nouvelles banques. En fait, moi, par exemple, MyMoneyBank, je ne connais pas. Donc, quel est le degré de confiance qu'on peut avoir pour confier son compte courant et qui devient
à
vos banques partenaires. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas un minimum de durée ? Parce que chaque fois qu'on fait des placements, on vous dit si vous ne le laissez pas pendant un mois, deux mois, trois mois, ça ne sert à rien parce que les transferts trop rapides n'arrivent pas à rémunérer. Voilà, donc...
Toutes deux des excellentes questions. Donc, premièrement, d'abord, on ne préconise pas à nos clients de mettre plus de 100 000 euros sur un compte, parce que jusqu'à 100 000 euros, vous tombez sur la garantie du dépôt. Toujours dans le cadre de la réponse à la première question, c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'être nous-mêmes régulés. Donc, non seulement la banque vers laquelle on vous amène est une banque française régulée qui tombe sur la garantie du dépôt, ce qui sécurise votre argent.
Ce qui est rassurant.
Exactement. Par ailleurs, nous-mêmes, nous sommes supervisés par la Banque de France, et on l'a voulu parce qu'on sait très bien que la confiance est un facteur clé même pour une appli qui se veut simple et ludique. À côté de ça, votre deuxième question, c'était est-ce que mon argent est bloqué ? Non, jamais, parce qu'en l'occurrence, c'est un autre frein à l'épargne. C'est justement ce souhait des Français qui souhaitent pouvoir disposer de leur liquidité quasiment en permanence.
Finalement, Cashbee, c'est une façon de mettre de l'argent de côté qui travaille et je peux le récupérer quand je veux. Je n'ai pas besoin de faire des tonnes de signatures pour récupérer mon épargne.
Vous avez tout compris, c'est exactement ça.
Est-ce qu'il y a des sommes minimum à verser ?
Oui, 10 euros.
10 euros par mois ?
Non, 10 euros, c'est le minimum nécessaire pour ouvrir un compte. Et donc, c'est le montant qu'on vous demande.
Donc, ça s'adresse à tout type d'épargnants, les petits comme les gros.
Exactement. Les jeunes comme les moins jeunes.
Vous avez effectué votre première levée de fonds à 1,1 million d'euros, hein, oui. il y a quelques semaines. Mmh. Vous allez en faire quoi? C'est pour développer quoi dans Cashbee?
Alors, c'est pour recruter notamment du côté technique. Aujourd'hui, on est disponible sous iOS. Il va falloir que ceux qui possèdent des Android puissent bénéficier de nos services. Donc ça, c'est un premier investissement. Au-delà de ça, pour nous, c'est un produit d'appel. Une fois qu'on vous aura amené sur le chemin de l'épargne, l'idée sera d'essayer de vous amener vers des produits encore plus rémunérateurs, peut-être un peu plus sophistiqués. Mais on sait très bien, encore une fois, que tout passe par le compte courant et s'attaquer à ce problème de masse est un premier pas vers le chemin de l'épargne heureuse.
Et là, ce sera plus adapté selon les profils financiers des uns et des autres, j'imagine, pour les prochains
oui, services. Sachant qu'on est très nombreux à vouloir épargner, et qu'on soit riche ou moins riche.
Bien sûr.
C'est Cashbee, c'est la solution aujourd'hui. Merci Marc Templeman d'être venu nous la présenter sur Europe 1 dans la France Bouge.
Merci beaucoup.
Il est midi 57. Europe 1. Restez avec nous, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Vous allez voir que certains n'ont pas attendu pour le faire et le faire bien. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans La France bouge. C'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui démarre. Et c'est l'occasion de vous montrer que l'insertion est possible, qu'il ne s'agit pas de quotas seulement, mais d'inclusion réelle et que chacun de nous peut apporter quelque chose à l'autre, y compris en milieu professionnel. C'est ce que vous faites avec les Cafés Joyeux. Yann Bucaï et Lanrezac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez ouvert votre premier restaurant en 2017, c'était à Rennes, à l'intérieur des personnes atteintes de handicap mental qui nous accueillent, qui nous servent. Si le projet est devenu réalité, c'est parce que, en fait, vous cherchiez à donner du sens et que vous avez fait des rencontres. Celle de Théo, puis celle de Vianney, on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait.
Ça a été un déclic. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez Théo?
Ce qui se passe, c'est que ce jeune garçon autiste, 20 ans, alors que je l'avais emmené en mer sur un bateau et je pensais avoir fait ma BA en lui proposant une navigation et pour pouvoir le changer un peu de son foyer d'accueil ou de son institut médico-éducatif, il m'interpelle et il me dit « Capitaine, il paraît que toi tu es patron. Tu n'as pas un métier pour moi ?» Et comme je n'étais pas préparé à cette question, je lui dis non. Et lui, qui était tout joyeux, il rayonnait, il était resplendissant, il m'a dit « c'est pas juste ». Et il s'est mis en colère. Il m'a dit « parce que oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Je veux un métier ».
Parce qu'à l'époque, vous aviez lancé Emeraude Voile Solidaire. C'était ce bateau dont vous parlez, où vous pouviez embarquer justement des fauteuils roulants. Et vous dites « dans l'association et ». Dans les Cafés Joyeux aujourd'hui, finalement, y compris les gens exclus sont les bienvenus. C'est ça le principe.
Oui, tout à fait. Cette association, le principe au départ, c'était de proposer une journée autrement à des personnes, entre guillemets, en souffrance. Donc, pendant 7 ans, c'est un bateau qu'on a fait construire avec mon épouse, qui est adapté pour monter à bord en fauteuil. Et cette association continue de naviguer à raison de 3 sorties par semaine. On embarque des personnes malades, des personnes en souffrance, comme des personnes exclues, ça peut être des réfugiés, c'est des instituts médico-éducatifs, des EHPAD, des personnes âgées. Et l'idée, c'est la rencontre, en fait. On est tous habillés pareil, avec un ciré, et on se retrouve au large. Et finalement, c'est une journée en mer pour larguer nos différences et de se retrouver, finalement, à une rencontre entre des personnes qui ne sont pas amenées à se connaître.
Donc, il y a le bateau, il y a Théo et la rencontre, il y a ce nom qui, quelque part, vous fait mal. Et puis, juste après, il y a la rencontre avec Vianney.
Oui.
Et là, il y a un oui.
Exactement. Vianney Marie, c'est un jeune garçon trisomique qui est maintenant à 22 ans et qui habite à Dinard, là où je m'étais installé avec mon épouse. Et ça a commencé comme ça, c'est dire, tiens, Vianney, est-ce que tu serais prêt à travailler avec moi? Et donc, au départ, son job, c'était d'être mon assistant joyeux. Donc, il venait une journée par semaine pour écrire des cartes, faire un petit... Donc, lui, il s'appelait le scribe joyeux de mon patron. C'est comme ça qu'il se présente. Puis, on l'a fait travailler dans un hôtel. Il a d'abord été en cuisine, puis il a été en salle. Et c'est un hôtel de luxe avec un restaurant gastronomique. Et on s'est rendu compte que c'était possible, que les convives n'étaient pas effrayés par Vianney Marie. Au contraire, ils étaient même touchés.
C'est comme ça qu'ouvre le premier Café Joyeux.
Oui. Ça nous a donné envie d'aller plus loin, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, à notre mesure bien sûr, si vous voulez, le constat est terrible, il y a 750 000 personnes avec handicap mental en France, seulement 0,5% travaillent en milieu ordinaire. Donc ce n'est pas nous qui allons changer le monde, on ne va pas changer les choses, mais si à notre mesure on peut recruter quelques équipiers joyeux avec leur handicap pour travailler dans un café. Mais on a commencé à Rennes à ouvrir ce premier café joyeux où on recrute des personnes trisomiques, autistes ou avec troubles cognitifs. Mm-hmm. Puis on en a ouvert deux à Paris.
Oui. Et là, ça se développe.
Ça se développe. Aujourd'hui, on a 24 équipiers joyeux en CDI et on a pour projet, évidemment, d'en faire plus parce qu'on se dit, pour ces personnes-là, il faut beaucoup d'ambition.
Vous dites, dans 3 ans, on sera 200 parce que vous avez Bordeaux, Paris encore qui doit ouvrir, puis oui. Lille, puis Lyon, puis Tours, puis Versailles.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que, en fait, ce projet, on l'a démarré sans faire un business plan comme une entreprise ordinaire, mais c'est une entreprise. Et on fonctionne avec des opportunités, en sens où quand on a ouvert à Paris, il y a eu pas mal de médias, des gens comme vous qui se sont saisis de la question. Et quand les médias s'emparent du sujet, eh bien ça crée des choses merveilleuses. On a reçu 300 demandes d'ouverture de Café Joyeux. Des parents, des associations, des amis qui disaient « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas un Café Joyeux dans ma ville ? Je veux un Café Joyeux dans ma rue. »
Donc vous serez le Starbucks français ?
Mais oui, pourquoi pas ? Et un Starbucks à la française, parce que d'abord meilleur, parce que tout est cuisiné sur place, ce sont des produits frais, ce sont des produits de saison. Et les équipiers joyeux, avec leurs différences, ils y vont tout doucement, mais ils cuisinent quelque chose de délicieux.
Ils cuisinent et puis ils font du café aujourd'hui
et
aussi.
Et ils torréfient du café.
Ouais. C'est-à-dire il est là, ce café joyeux.
On a lancé une gamme de cafés sous la marque Joyeux Servi avec le cœur, qui est un café torréfié et sélectionné par une femme merveilleuse qui est meilleure ouvrière de France et qui nous fait... un café des purs arabicas sélectionnés de grandes plantations au Costa Rica, en Éthiopie. Et ce café est accessible sur caféjoyeux.com. Et l'intégralité des bénéfices de ce café permet de financer l'ouverture de futurs restaurants.
Elisabeth, ce n'est pas toujours évident hein, pour les entreprises de recruter des travailleurs handicapés. On le voit surtout quand on regarde les chiffres.
Oui, hein, vous savez, il y a une obligation d'emploi des travailleurs handicapés fixée à 6% de l'effectif des entreprises. Et pourtant, l'insertion et le maintien des personnes en situation de handicap dans le monde du travail restent tout de même marginaux. Parmi les 2,8 millions de personnes en âge de travailler reconnues comme handicapées en France en 2019, 988 000 sont en emploi, d'après les derniers chiffres de l'association APF France Handicap. Mais ces personnes connaissent des périodes longues de chômage, hein, plus longues que la normale, un taux de chômage de 18%, ce qui reste encore très important.
Notre coach, Sandra Legrand.
Alors moi d'abord, je dis merci parce que c'est vraiment une belle mission que d'ouvrir des cafés joyeux. Moi, je voulais comprendre comment on peut vous aider à être 200 cafés demain. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un système de franchise ? Est-ce que les personnes doivent investir ? Parce qu'ouvrir un café, c'est pas anodin. Hein. Il faut des fonds pour investir dans un café, qu'on reprenne un fonds de commerce, un pas de porte ou autre. Et puis, est-ce qu'il y a des aides pour justement recruter ces personnes handicapées, ce qui facilite aussi ensuite les coûts salariaux. Mais comment on peut vous aider pour être 200 ? Je trouve ça formidable.
Merci
beaucoup.
Yann
Bukaylan-Razek.
Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment sympa de nous la poser parce qu'effectivement, on n'y arrivera pas tout seul. Ouvrir un café joyeux, c'est comme vous l'avez dit, c'est un gros investissement au niveau de l'achat du fonds de commerce. Maintenant, nous sommes une entreprise et nos équipiers joyeux démontrent, même si on a une masse salariale qui est beaucoup plus importante que dans un restaurant ordinaire, ils démontrent qu'ils sont capables d'arriver à un équilibre financier dans les opérations. C'est-à-dire qu'on peut payer nos salaires, ils payent grâce à la valeur qu'ils créent, ils payent le loyer. Mais l'achat du fonds de commerce, c'est très coûteux. Et alors ce qu'on fait, c'est que par exemple à Bordeaux, ce sont des donateurs qui se sont fédérés autour de ça et qui disent « ben voilà, je vais investir dans la fondation qui est l'actionnaire unique de l'entreprise ». Et donc tout ça, c'est pas moi l'actionnaire, c'est un actionnaire désintéressé et cette fondation collecte des dons de mécènes ou des petits dons qui vont permettre de contribuer à l'ouverture de futurs cafés joyeux.
On reste ensemble et on continue à parler emploi des personnes handicapées aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et si le numérique était aussi une des portes d'entrée dans le travail pour ces personnes handicapées, c'est ce que croit en tout cas notre prochaine invitée. A tout de suite. C'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées. On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec vos invités, Raphaël. Et si vous souhaitez témoigner, parler de votre expérience, écrivez-nous sur Twitter, #Europe1, ou alors appelez-nous au 3921, Raphaël. La campagne de cette semaine européenne dit une chose très vraie, Céline. Rendons aux travailleurs handicapés leurs compétences visibles. Et c'est ce que s'attache à faire justement avec En Digital, Fabrice Autissier. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Bienvenue. Vous êtes le fondateur de cette école préparatoire au métier du numérique pour les personnes en situation de handicap. Racontez-moi comment
justement. Comment est née l'idée dans votre esprit? Vous étiez, depuis 2001, je crois, en charge des relations dans une entreprise pour promouvoir justement l'alternance des personnes handicapées.
Oui, en fait, moi j'ai un parcours d'une quinzaine d'années en tant que chargé de relations entreprise dans tout ce qui touche l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc je travaillais sur toute la partie insertion, formation, maintien dans l'emploi. Et en 2012, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer une structure qui s'appelle Mille et un regard, qui est avant tout une SARL qui développe des solutions dans le domaine du numérique et du handicap. Et cette structure a grandi, on a recherché des compétences et on s'est rendu compte, et je ne suis pas seul dans le secteur, qu'aujourd'hui il était très dur et très difficile de recruter, notamment dans le domaine du développement web. Et j'ai décidé donc de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de créer une école préparatoire au métier du numérique, du non-dit digital, et qui aurait la particularité donc de recruter prioritairement des personnes en situation de handicap.
Oui, parce qu'effectivement, quand on met, et Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres en face, le numérique a du mal à recruter. Or, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est très important, plus important que la moyenne.
Oui, c'est exact.
Donc, vous vous êtes dit, on peut peut-être faire quelque chose.
Bah, écoutez, il y a plus de 70 000 postes à pourvoir aujourd'hui en France dans le métier du numérique. Vous l'avez rappelé justement tout à l'heure, on a un taux de chômage qui est le double de la population active actuelle pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on avoisine les 19%. Donc l'idée, c'était de trouver une corrélation et de matcher un petit peu des besoins dans un secteur, dans une branche, et puis ben, une situation par rapport à des publics. Et donc on a décidé de créer cette offre alternative qui se nomme donc en digital.
2016, hein, c'est bien ça?
2018.
L'idée, en
alors,
tout
l'idée
cas.
L'idée est née en 2016.
Et le projet voit le jour en 2018.
2 ans d'études, de travail, de recherche de partenariats, de recherche de fonds pour lancer une première promotion sur Grenoble donc en 2018.
10 élèves, c'est ça?
10 élèves, voilà. 10 élèves atypiques. Tous différents les uns des autres, mais avec une vraie appétence pour travailler dans le numérique et une vraie motivation pour aller vers un emploi.
10 élèves et 8 qui ont trouvé un CDD de 6 mois minimum, pas de CDI.
Alors si, on a signé un deuxième CDI, là, sur donc on a 80% de nos élèves qui sont retournés en emploi sur un CDD de 10 à 12 mois, et on a aujourd'hui 2 personnes qui sont actuellement en CDI. Et on est sur encore 2 autres personnes qui sont en renouvellement de contrat. Donc on commence à être sur un emploi un peu durable pour la plupart de nos élèves.
Et cette année, vous avez une deuxième promotion de 11, c'est ça, une troisième à Lyon aussi. Et puis vous dites l'année prochaine, ce sera Chambéry. On est en train, effectivement, comme pour les Cafés Joyeux, de faire des émules.
C'est ça. En fait, on essaye d'essaimer un peu partout. On a des partenaires qui nous soutiennent. Nous, on est soutenus par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la GFIP. On a aussi des partenaires privés comme Apicil, Action Sociale et AG2R. Voilà. Nous, on est sur le principe de modèle économique de la subvention, puis public pardon, et privé. Et puis, bien entendu, on a tout un réseau d'entreprises qui se mobilisent autour de nous, des entreprises qui sont demandeurs de compétences, qui ne regardent pas et qui vont bien au-delà du handicap. Ce qu'ils recherchent avant tout, ce sont des compétences. Et nous, on est là aussi pour leur amener ces compétences nécessaires dans le cadre des métiers du numérique.
Notre coach, Sandra Legrand, pour Yapuka.
Alors, bien sûr, le numérique est très demandeur. Hein. D'ailleurs, les Asperger sont très forts là-dedans. J'imagine que c'est un handicap que vous devez peut-être rechercher parce qu'ils sont... Enfin, moi, j'en avais embauché.
50% de nos publics sont des neuroatypiques.
Voilà, ouais. Effectivement, ils sont forts en informatique et en web. Ma question, c'est est-ce que vos formations sont certifiantes ou diplômantes? Et est-ce que vous n'êtes qu'une, entre guillemets, école de formation ou est-ce que vous faites aussi organisme de formation pour éventuellement aller former dans les entreprises, pour les inciter en fait à embaucher des personnes avec handicap?
Très bonne question. Alors oui, effectivement, on est d'abord une école préparatoire au métier du numérique. Donc on forme et on amène nos publics sur des niveaux bac à bac plus 2. Mmh. La certification est en cours de dépôt puisqu'il faut 3 sessions de formation pour pouvoir déposer une certification. Donc l'idée, c'est de déposer dès l'année prochaine, un titre professionnel de niveau bac et de niveau bac plus 2. Pour ce qui est des entreprises, on les accompagne, bien entendu, on les forme à la prise en compte du handicap et on est accompagné par tout un ensemble de réseaux de spécialistes qui vont en entreprise et qui vont les accompagner tout au long de la démarche autour d'en digital.
Elisabeth, des initiatives comme ça se déploient un petit peu partout en France.
Oui, par exemple, en ce moment, dans les pays de la Loire, Pôle emploi expérimente un accompagnement des demandeurs d'emploi autistes par un job coach. Un job coach, ce sont des personnes qui réalisent en amont un travail avec les jeunes autistes, mais ils se déplacent aussi dans les entreprises pour sensibiliser le personnel à l'autisme afin de faciliter une éventuelle venue. Depuis 2012 déjà, l'association Handisup, qui est basée à Rouen, propose aux jeunes autistes qui le souhaitent d'être accompagnés par des job coachs. Donc il y a des petites initiatives par-ci par-là qui sont en train d'émerger pour faire avancer les choses.
On reste ensemble sur Europe 1 et on parle emploi des personnes handicapées aujourd'hui. À tout de suite.
Il est 13h29.
Europe 1.
Et ce sont les expériences qui nous guident parfois vers le changement. C'est comme ça qu'est né le groupe Zefi. À tout de suite.
Vous connaissez une société qui crée de l'emploi pour les personnes handicapées? C'est le moment de nous envoyer un message pour la mettre à l'honneur, hashtag Europe 1, où vous nous appelez au 3921. Raphaël, avec nous cet après-midi, trois invités qui aident les personnes en situation de handicap à trouver un emploi.
Et on parlait de changement tout à l'heure pour expliquer la naissance du groupe Zefi, changement et rencontre. Tiens, là aussi, bonjour Didier Rio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci, vous. Le
fondateur de ce groupe que vous avez créé en 2007, mais... j'ai envie de dire que l'aventure commence quand même bien avant, à la fin des années 90, quand vous faites traiter une partie des activités industrielles de l'entreprise pour laquelle vous travaillez dans un ESAT. C'est à l'époque un univers que vous ne connaissez pas.
Oui, à l'époque, à partir des années 90, je suis un industriel, je travaille dans différents secteurs et dans l'automobile. Et tout d'un coup, on se met à sous-traiter un ESAT. Ce qu'on appelait un CAT à l'époque.
Centre d'aide par le travail.
Tout à fait. Je ne connaissais pas. J'ai vu des hommes et des femmes venir. On a fait des devis, on a fait tout un travail. Et on a développé chez eux, dans ce CAT, on a développé une chaîne peinture. Et c'est vrai que ce processus a été énorme pour moi. Moi qui j'étais patron de prod dans l'industrie. Et de voir ces hommes et ces femmes qui travaillaient sur table au départ. Et qui ont... complètement matché à vouloir apprendre un métier. Et on les voyait être debout, au fur et à mesure, grandir. Et ils grandissaient, mais le pire, c'est que je grandissais avec eux. Et je prenais beaucoup de plaisir à être avec eux, et ça donnait du sens. Parce qu'en tant qu'industriel, c'est vrai qu'il y a évidemment un rituel, il y a évidemment tout un travail, mais là, ça donnait du sens.
On sent que c'est beaucoup d'émotions, hein, ce que vous avez vécu à l'époque. Et du coup, en 2007, vous décidez de monter votre propre affaire. Alors vous vous dites, j'ai des connaissances dans le secteur automobile. Maintenant, je connais aussi le domaine du handicap. Peut-être que je peux faire quelque chose.
Oui, je trouvais qu'on pouvait apporter une valeur ajoutée à l'époque, en 2007. Et cette valeur ajoutée, c'était essentiellement le métier. Apprendre un métier, être utile. Donc en 2007, j'ai créé Utile Socialement. Donc j'ai créé en effet la première entreprise adaptée basée sur un métier qui est de la chaudronnerie industrielle. En effet, à l'époque, on avait des hommes et des femmes en situation de handicap et on n'arrivait pas à réaliser des travaux de chaudronnerie en France par des personnes françaises. Donc j'ai créé cette entreprise en 2007 qui a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on en a une dans le nord de la France, les ateliers solidaires du Nord, dont le métier, c'est la chaudronnerie.
Donc ouais, ils ont un vrai métier. 12 chaudronniers, soudeurs, chaudronniers.
Ouais, 12 chaudronniers, 12 magnifiques chaudronniers font un travail énorme.
Vous parlez du Nord, mais il y a aussi les ateliers bretons solidaires. Là, c'est 50 salariés. Oui. Il y a l'Orne en 2012, 20 salariés.
C'est vraiment des créations faites pour à la fois donner un métier à des hommes et des femmes qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Et puis, deuxièmement, c'est aussi de se créer là où il n'y a pas d'autres entreprises adaptées. C'est-à-dire, si vous habitez Fourmies, dans le Nord, voilà, vous êtes obligé de déménager, de faire 50 km pour trouver un emploi, pour trouver une entreprise adaptée dans laquelle vous pourriez travailler. Pareil, même en Bretagne, à Vitré, on s'est créé à Vitré, qui est à 50 km de Rennes, à 50 km de Laval, où là, en effet, si j'ai un handicap sur Vitré, je suis obligé de déménager. D'où cette reterritorialisation, créer de l'emploi là où il n'y en a pas, pour les personnes en situation de handicap. Et deuxièmement, apporter un métier, parce que le but, c'est aussi d'être dynamique. Le monde est dynamique, le monde du handicap est dynamique.
On rend de la confiance et on efface les discriminations.
Oui, on laisse souvent son handicap au vestiaire. Si vous venez visiter mes entreprises adaptées, savoir qui a un handicap qui n'en a pas, vous êtes incapable.
La coach.
Alors moi, je découvre ce concept d'entreprise adaptée. Est-ce que c'est un label, être entreprise adaptée? Parce que c'est vous qui créez toutes ces sociétés au fur et à mesure, ou vous trouvez des sociétés à qui vous facilitez l'insertion de personnes handicapées?
Auparavant, ça s'appelait des ateliers protégés, jusqu'en 2005. La loi du 11 février 2005 a créé ces entreprises adaptées, ce nom entreprise adaptée. À partir de là, en effet, vous avez un agrément d'État qui est donné par la région, et vous allez créer en fonction des besoins et du projet.
Donc vous êtes aidé par l'État pour créer ces entreprises?
On a des agréments et en effet, il y a une partie de... les personnes en situation de handicap que nous employons sont salariées à part entière. Sont salariés. Et à partir de là, on est accompagné en effet par l'État pour un manque d'efficience.
Elisabeth,
je voulais juste ajouter que quand on parle de milieu protégé, ça veut dire qu'on prend le temps, chacun à son rythme, mais le travail est fait hein, sérieusement avec un savoir-faire. C'est important de le souligner. C'est juste qu'on prend plus de temps pour être adapté à la différence de chacun.
Le rendu est le même. Aujourd'hui, nous avons dans le groupe plusieurs imprimeries. Je peux vous assurer que quand nous imprimons pour des clients qui sont des grandes banques, qui sont des grandes assurances, il est hors de question de livrer un produit qui ne soit pas en temps et en heure, qui ne soit pas en qualité. De même, aujourd'hui, on a développé une usine qui ne fait que de la sacherie papier. On travaille pour la grande distribution. Et là, en effet, vous devez livrer et vous êtes la majorité. On est accompagné, mais le chiffre d'affaires, il y a un chiffre d'affaires avec des clients.
Oui, fondamentalement. Justement, votre chiffre d'affaires, il est quand même important, 15 millions d'euros. Vous faites travailler Didier Rio, quand on vous écoute, ça semble naturel tout ça, mais vous faites travailler 450 salariés, dont plus de 400 sont reconnus comme travailleurs handicapés.
Oui, oui, oui.
Est-ce que la pression est la même? Ou comment vous insufflez l'objectif?
Tout est plus, c'est magnifique.
Les émotions
c'est magnifique
aussi.
Parce que vous avez des hommes et des femmes qui sont des fois qui arrivent, qui vont pas bien, qui ont été exclus, qui ont été diminués, et vous les voyez resplendir, donc c'est beaucoup plus. Et à la fois, vous avez une difficulté économique, c'est plus. Il est hors de question que la variable d'ajustement soit la personne. Mmh. C'est même pas pensable. On a une finalité humaine et un outil industriel. Donc évidemment, la pression, la responsabilité est accrue. Évidemment. Évidemment. Bon. On peut pas de votre côté.
Mais des deux côtés.
De tout le monde, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait des nantis et pas nantis. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Avec cette complexité, on doit satisfaire tout le monde.
On reste ensemble et on continue à parler emploi des personnes handicapées aujourd'hui avec vous sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez témoigner, venez aussi poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge, à tout de suite.
Un dossier du jour consacré à l'emploi des personnes handicapées. Vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Nous sommes avec Yann Bucaille-Lanrezac, dirigeant du Café Joyeux, Fabrice Autissier, fondateur d'En Digital, et Didier Rio, fondateur du groupe Zephy. Notre coach aujourd'hui, c'est Sandra Legrand, cofondatrice de Yapuka, qui coach les jeunes pour leurs entretiens. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Et vous êtes là aussi, vous êtes au téléphone, notamment au 3921. Bonjour Gonzague.
Oui, bonjour Raphaël.
Vous nous appelez de Reims, Gonzague, merci d'être avec nous. Vous avez un projet en cours d'ouverture de restaurant, vous aussi?
Oui, effectivement, on est une équipe d'une vingtaine de personnes très motivées pour donner la possibilité à des personnes dites extraordinaires de travailler et plus, d'acquérir un métier et d'offrir aux clients qui viendront chez nous bien plus qu'une dégustation d'un plat, d'un menu, mais une expérience de partage, de convivialité très riche.
Vous dites justement, Gonzague, que c'est important que les personnes handicapées soient insérées dans une activité professionnelle normale.
Mais bien sûr, et c'est aussi important pour nous, personnes dites normales, de vivre la différence et de comprendre que ces personnes à qui on pense donner quelque chose nous apporte en fait beaucoup plus dans cette société individuelle du chacun pour soi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Gonzague. Il ouvre quand le restaurant du côté de Reims?
Eh bien, il nous faut trouver un lieu à Reims et puis des partenaires. Donc, ils n'hésitent pas à vous écrire, Raphaël.
Ben voilà, vous allez venir nous voir dans la France Bouge Academy, hein?
Mais sans doute à très bientôt. Alors.
À très bientôt, Gonzague. Une réaction peut-être en plateau ici à Europe 1. On voit de plus en plus de projets émerger justement, de gens qui veulent agir.
Oui, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a à la fois des personnes qui ont été très novatrices, et c'est le cas de Didier, qui, je pense que quand Didier a démarré, enfin, ce que je viens d'apprendre, c'était pas banal. Aujourd'hui, je ne sais pas te dire que c'est banal, parce que je pense qu'il n'y aura jamais assez de monde pour pouvoir se saisir de la question, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'initiatives, et celle de Gonzague, que je crois connaître, parce que effectivement, je l'ai rencontré au Café Joyeux, ce projet à Reims, j'espère qu'il verra le jour, parce que il y a besoin de ce type d'entreprise partout.
Céline, on a une question Twitter.
Oui, de Marc, hashtag Europe 1. Il nous dit, dans un contexte économique difficile et un taux de chômage toujours aussi élevé, comment convaincre un chef d'entreprise d'engager une personne handicapée ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à lui dire pour lui faire comprendre que c'est utile, c'est nécessaire ?
Je crois que l'approche du handicap, elle passe au-delà. Ce qu'on vend, nous, d'avant, ce sont des compétences. C'est-à-dire que nous, l'approche du handicap, elle est dans notre nom, on l'affiche. Après, on n'en parle plus. Ce qu'on essaye de présenter aux entreprises, c'est avant tout des personnes qui sont motivées, qui veulent aller vers un emploi. Bien entendu, il y a des situations à prendre en compte, parce qu'on parle de situations de handicap, mais le handicap, il dépasse largement toutes les barrières qu'on peut voir aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est avant tout des hommes et des femmes qui veulent travailler et qui ont des compétences. Voilà.
Brigitte est avec nous en ligne au 3921. Brigitte qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Brigitte.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être là.
Voilà, alors je suis un petit peu particulière dans la mesure où je suis j'ai un handicap totalement invisible. J'ai 60 ans, j'ai eu un accident quand j'avais 15 ans et j'ai eu un traumatisme crânien grave. Mais j'ai réussi quand même à m'en sortir, à faire des études et intégrer un milieu professionnel dit normal.
Vous étiez fonctionnaire,
oui,
Brigitte.
J'ai été. Là, je suis entre deux parce que bon, on m'a montré la sortie il y a quelques années de la retraite et c'est très difficile à vivre. Je voulais aller à la retraite comme tout le monde, mais bon, on n'a pas voulu. Voilà. Donc ça, c'est très difficile et c'est pour ça que je trouve que bon, déjà, il y a le fait des personnes handicapées visibles, bon, sont mieux traitées à la limite que quand c'est totalement invisible. Enfin, moi, c'est mon vécu, c'est mon ressenti. Donc, faudrait vraiment attirer l'attention sur le handicap invisible. C'est pas parce qu'on est traumatisé crânien qu'on est fou, qu'on est dangereux, pas du tout, du tout. J'ai fait des études, j'ai fondé une famille. Alors, il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi l'aspect, bon ça c'est peut-être un autre sujet, du manque de prise en charge dans certains lieux en France où on est un petit peu isolé et qu'il manque des professionnels référents, voilà.
Mais c'est important ce que vous dites, effectivement, cette prise en compte de ce qu'on appelle le handicap invisible. Le handicap physique, forcément, on le voit, le handicap mental, il n'est pas forcément décelable, hein, mais il est là.
C'est une difficulté, en effet, par rapport à des personnes, des hommes et des femmes qui vont être malvoyants. C'est relativement simple pour nous de voir ce qu'il en est. Par contre, lorsqu'une personne a un traumatisme crânien, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, en effet, nous, sur Nantes, beaucoup de nos salariés ont eu un traumatisme crânien et ont des capacités de travail qui sont fondamentales. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cette différence, et même si cette différence ne se voit pas. Et il faut bien au contraire. C'est vraiment une source de richesse.
Mais est-ce qu'il y a toujours, Sandra, effectivement, ce complexe à dire qu'on est à se déclarer handicapé ? Parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Beaucoup de personnes ne veulent pas le déclarer, pour des raisons XY qui leur sont personnelles. Mais du coup, elles n'ont pas les aides, elles ne sont pas repérées.
Oui, dans notre histoire, dans l'histoire de notre société, en effet, c'est compliqué. C'est compliqué de dire qu'on a un handicap. C'est compliqué de le vivre. Et il n'y a pas si longtemps, on voit des évolutions depuis 40 ans. On parle de loi, on parle de 1987, on parle de 2005. Là, on parle d'une nouvelle loi pour les entreprises adaptées en 2018. C'est un monde qui est en mouvement. Et en effet, la place faite aux personnes handicapées était complexe pour eux. À une époque, ça l'est toujours, mais la société évolue et elle évolue bien. On voit des enfants aujourd'hui qui sont inclus dans un système scolaire. Et c'est le début. C'est que nos enfants puissent rencontrer des enfants qui sont différents. Et à un moment donné, on ne se posera même plus cette question plus tard. Ça sera évident.
Vous avez raison. Et il y a de plus en plus de choses qui se font, notamment des plateformes qui existent pour aider à l'emploi.
Oui, grâce à sur smartphone, vous avez par exemple Antea, qui est une plateforme de mise en relation par handicompétences entre travailleurs reconnus handicapés. Ils mettent à l'honneur les compétences de chacun grâce à un algorithme de matching, comme pour un site de rencontre, sauf que c'est pour trouver du travail, qui réalise une correspondance entre les métiers, les compétences et le handicap. Vous avez aussi Moby Job, là c'est aussi une application qui aide les personnes qui ont un handicap mental et les entreprises à travailler ensemble. C'est une application dédiée donc au travail en entreprise. Elle est utilisée comme un outil de management avec des pratiques tutorales, pédagogiques pour aussi que les équipes soient sensibilisées et au courant de comment on travaille avec des personnes qui sont différentes.
Voilà
et talentueuse.
Une partie de ce qu'on pouvait dire, évidemment, on pourrait rester des heures ensemble. Je voudrais juste remercier Bénédicte, qui est à Lyon, qui nous a appelé, qui a un fils autiste de 18 ans et qui aurait aimé prendre la parole pour parler de ses difficultés. On la salue et on les embrasse. Et puis, je signalais aussi que Jean-François, qui est à Angers, est en train de créer un restaurant qui emploie des 10. C'est vrai qu'on est en contact et je pense qu'on le recevra d'ici quelques temps dans La France Bouge. Merci Brigitte aussi qui était en ligne avec nous évidemment. Merci à tous les trois d'être venus partager ce moment sur Europe 1.
Il est 13h49.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Elle est un des grands noms du linge basque. L'Artigue 1910 sera dans quelques instants l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Il est 13h50, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise a, comme elle le dit elle-même, le tissage en héritage. C'est l'Artigue 1910. Bonjour Philippe L'Artigue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la quatrième génération à perpétuer ce savoir-faire. Et pourtant, au départ, Calixte, qui a créé l'entreprise, était agriculteur. Mais c'est lui qui a l'idée à Oloron-Sainte-Marie de se lancer dans la fabrication d'espadrilles et de béret, je crois.
Voilà. Non, oui, en fait, c'est-à-dire, lui s'est lancé effectivement dans la fabrication et le tissage, c'est ce qui est important, c'est-à-dire il a changé complètement de métier. Il est allé se former dans le Nord. Il faut imaginer que c'est dans les années 1910 quand même, c'est pas rien. Et il est revenu former et a créé son tissage à côté d'Oloron-Sainte-Marie, effectivement. Un tissage qui perdure, puisque ça fait la quatrième génération maintenant que la famille L'Artigue tisse. Il y a eu des évolutions dans les produits. Donc au départ, tissu de toile à espadrille, car l'espadrille était un produit très très utilisé dans le sud-ouest de la France et nécessitait beaucoup de toile. Donc ce tissage, cette activité plus exactement de tissage de toile espadrille a duré quasiment trois générations sans interruption. Et dans les années 80, il y a eu un changement avec un peu la crise de l'espadrille
et l'arrivée des espadrilles asiatiques.
Tout à fait. À ce moment-là, il a fallu trouver une activité de remplacement. Et c'est mon père qui a acheté un petit tissage de linge basque. Lui faisait déjà du linge basque depuis les années 70. Il a racheté un petit tissage de linge basque. Et c'est à ce moment-là où quasiment que je suis arrivé dans l'entreprise. Et que j'ai pris la direction de ce tissage de linge basque.
Alors, vous dites le linge basque, oui. Mais le linge basque, c'est toute une histoire.
Oui, tout à fait.
Celle des rayures, d'abord, parce qu'il faut compter, il y en a sept des rayures.
Il y en a sept.
C'est pas un hasard, ça a une signification.
Oui, effectivement. Alors, à l'origine, le linge basque, c'était un linge qui était fait en pur lin, une matière que l'on trouvait sur place dans la région, que l'on filait sur place et qui était donnée à des tisserands itinérants qui venaient et qui tissaient à la demande les tissus à domicile quasiment, avant la mise en place des tissages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ces tisserands faisaient des tissus, dont un tissu qu'on appelait la mante à bœuf. C'était un tissu
qu'on mettait sur le dos des
bœufs. Et voilà. D'où ce nom de mante à bœuf. C'était un tissu avec une ou deux rayures de couleur plutôt bleu marine, parce qu'on utilisait effectivement des colorants naturels, et le bleu était un des colorants les plus utilisés. Et ensuite sont apparues effectivement ces fameuses sept rayures traditionnelles qui sont
les sept
qui représentent les sept provinces basques, les trois françaises et les quatre espagnoles qui forment l'ensemble du pays basque.
Et la taille de la rayure aussi avait une importance.
Oui, alors il y a plusieurs versions, dont une qui consiste à dire que la taille, suivant la taille des rayures, on savait si c'était le chef de la ferme ou l'un de ses employés qui conduisait les bœufs. Et donc, plus elles étaient importantes, et plus on savait que c'était effectivement le chef de ferme qui était à la tête de l'attelage.
Quand votre père décide de racheter l'entreprise de tissage de lin et que la reconversion véritable commence, vous commencez à faire du linge de table, mais petit à petit, vous élargissez quand même très vite la gamme.
Ben, il a fallu, effectivement. Parce que le linge basque a beaucoup évolué à l'époque où je suis rentré. C'était un linge typique, enfin plutôt tourné vers la table et la cuisine. Mm-hmm. Vraiment tout ce qui est nappe, serviette et ensuite cuisine, tablier et torchon. Et dans des coloris très très typiques, c'est-à-dire le rouge, le vert et le blanc. Donc on tournait beaucoup autour de ces couleurs-là. Et ensuite, dans les années 90-95, il a fallu évoluer, parce que les 7 rayures et les couleurs limitées à 5 ou 6 couleurs, il a fallu trouver le moyen de faire évoluer ce linge basque. Et ça a été dans les années 95 où sont apparues les premières bayadères, c'est-à-dire ces tissus tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec un ensemble de couleurs qui peut aller de 3 jusqu'à 10 sur un même tissu.
Notre coach, oui. Sandra Legrand.
Alors moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup toutes ces couleurs. La question c'est, est-ce que dans toute effectivement la déco, la cuisine, la table, l'accessoire, l'enfant, l'extérieur, qu'est-ce qui se vend le mieux ?
Alors la table reste vraiment un produit de base, hein, avec les nappes, serviettes, jetées de table, serviettes et la cuisine aussi. Mais on s'aperçoit que tout ce qui est ameublement se développe énormément, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de rideaux maintenant, de coussins, que ce soit en intérieur et en extérieur.
Des transats aussi, j'ai vu.
Transats, effectivement, coussins extérieurs, enfin, ça se développe énormément. Et ensuite, on a toute une collection de petits produits qui permettent aussi d'avoir une gamme de produits de prix très différents, puisqu'on peut faire des petites trousses, des petits sacs, des choses qui n'existait pas au départ dans les collections.
Et alors, vous vendez en local et c'est une volonté.
C'est une volonté.
Vous restez en local, vous cherchez vos fabricants. Les gens qui travaillent avec vous sont à 100 km à la ronde.
Voilà, alors aujourd'hui, on peut dire, c'est le terme.
Le circuit court.
C'est le circuit court.
Mais j'aimerais bien voir des nappes comme ça dans les restaurants, ces nappes colorées. Vous ne travaillez pas beaucoup avec les restaurants ?
Ça nous arrive de travailler avec les restaurants. Après, les restaurants, il faut reconnaître aussi qu'ils sont plutôt en recherche de produits qui ne sont pas en coton. Nous, on est dans des matières qui sont pas très utilisés dans les restaurations parce qu'ils sont plutôt sur des linges synthétiques qui se repassent et qui... Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous, on est sur des matières naturelles et on veut le rester hein, sur les matières naturelles. Alors, comme vous disiez, on travaille en circuit court, c'est-à-dire on a les deux tissages situés sur les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui.
Bidos et Asquin.
Bidos et Asquin, tout à fait. Le teinturier est à Naï, à côté de Pau. Je veux dire, nous, dans un rayon de 120-150 km, on a toutes les possibilités de mettre en place notre production. C'est-à-dire, on tisse, on confectionne et on vend sur place l'ensemble de nos collections.
Avec le label Entreprise du patrimoine vivant.
Exactement.
C'est l'Artigue 1910. Merci Philippe L'Artigue d'être venu nous raconter votre histoire.
Merci de m'avoir invité.
Merci à Sandra Legrand qui était notre coach, Elisabeth Céline.
À demain.
À demain.